Chapitre 19. Le lac de Pergola, l'île de Kretovski, l'île de Zelaguin, le général Mellissimo. Dîner turc. J'écris à Cléry, valet de chambre de Louis XVI. Sa réponse. Je fais le portrait de Marie-Antoinette pour Madame la Duchesse d'Angoulême. Lettre que m'écrit Madame la Duchesse d'Angoulême. Une grande jouissance avait lieu pour moi lorsque, après avoir respiré pendant plusieurs mois un air glacé ou l'air des poêles, je voyais arriver l'été. La promenade alors me semblait une chose délicieuse et je me pressais de parcourir les beaux environs de Pétersbourg. J'allais très souvent au lac de Pergola. Ce lieu appartenait à Madame de Chouvaloff, femme de l'auteur de l'Épître à Ninon. Sa fille a épousé le comte d'Idrestein, frère de la belle comtesse Kinsky. Seul avec mon bon domestique russe, prendre ce que j'appelais un bain d'air. Je me plaisais à contempler ce beau lac si limpide qui réfléchissait vivement les arbres qui l'environnaient. Puis je montais sur les hauteurs dont il est entouré. D'un côté, j'avais la mer pour horizon et je distinguais les voiles des vaisseaux éclairés par le soleil. Là régnait un silence qui n'était troublé que par le chant de 1000 oiseaux ou souvent par celui d'une petite cloche lointaine. Cet air pur, ce lieu sauvage et pittoresque, me charmait. Mon bon Pierre, qui faisait réchauffer mon petit dîner, ou qui cueillait des bouquets de fleurs champêtres pour me les apporter, me faisait penser à Robinson dans son île avec Vendredi. J'allais souvent aussi me promener de très grand matin avec ma fille à l'île de Kretovski. L'extrémité de cette île paraît joindre la mer sur laquelle naviguaient de grandes barques. L'horizon n'avait point de bornes et cette vue était calme et belle. Nous y allâmes au soir pour voir danser les paysannes russes dont le costume est si pittoresque. Puis, un jour du mois de juillet de je ne sais quelle année, pendant laquelle la chaleur fut plus forte qu'en Italie, je me souviens que la mère, la princesse Bariatinsky, elle avait été jolie comme un ange et son esprit fin et naturel la rendait une des plus aimables femmes de Pétersbourg. De la princesse Dolgorouki, ne pouvant la supporter, s'était établie dans sa cave. Sa dame de compagnie, moins susceptible, restait sur les marches élevées et lui faisait la lecture. Mais pour en revenir à l'île de Kretovski, comme nous faisions une promenade en bateau, nous rencontrâmes une multitude d'hommes et de femmes se baignant tous pêle-mêle. Nous vîmes même de loin des jeunes gens tout nus à cheval qui allaient ainsi se baigner avec leurs chevaux. Dans tout autre pays, un grand scandale naîtrait de pareilles choses. Mais il en est autrement là où règne l'innocence de la pensée. Aucune indécence ne se passait, personne ne songeait à mal, car le peuple russe a vraiment l'ingénuité de la première nature. Dans les familles, l'hiver, le mari, la femme, les enfants se couchent ensemble sur leurs poêles. Si le poêle ne suffit pas, ils s'étendent sur les bancs de bois, rangés autour de leur hangar, enveloppés seulement de leur peau de mouton. Enfin, ils ont conservé les mœurs des anciens patriarches. Une des promenades qui me charmait le plus était celle de l'île de Zelaguin, qui, pour avoir été un très beau jardin anglais, n'en était pas moins abandonné alors. Toutefois, il y restait encore de très beaux arbres, des allées charmantes, un temple entouré de superbes saules pleureurs et de petites rivières courantes, quelques masses de fleurs qui réjouissaient les yeux, des ponts dans le genre anglais et des arbres verts magnifiques. Je ne concevais pas comment on avait abandonné ce lieu qui pouvait devenir le plus délicieux du monde. Depuis mon retour en France, en effet, j'ai appris qu'Alexandre l'a fait soigner et qu'il en a fait un des beaux jardins que l'on puisse voir. Il y avait dans cette île des vues si belles et si pittoresques que j'en ai dessiné une grande quantité et pour jouir tout à mon aise de cette charmante promenade, je louai presque en face, sur les bords de la Neva, une petite maison de bois. La situation de cette maisonnette était délicieuse et d'une gaieté ravissante en ce que la plupart des barques qui allaient et venaient sans cesse sur la rivière me donnaient un concert perpétuel de musique vocale ou d'instruments à vent. Tout près de moi, le général Mellissimo, grand maître de l'artillerie, habitait une fort jolie maison et j'étais charmé de ce voisinage. Car le général était le meilleur et le plus obligeant des hommes. Comme il avait séjourné longtemps en Turquie, Sa maison offrait en modèle non seulement du luxe, mais du confortable oriental. Il s'y trouvait une salle de bain, éclairée par en haut, et dans le milieu de laquelle était une cuve assez grande pour contenir une douzaine de personnes. On descendait dans l'eau par quelques marches. Le linge qui servait à s'essuyer en sortant du bain était posé sur la balustrade en or qui entourait la cuve, et ce linge consistait en de grands morceaux de mousseline de l'Inde, brodés en bas de fleurs et d'or, afin que la pesanteur de cette bordure pût fixer la mousseline sur les chairs, ce qui me parut une recherche pleine de magnificence. Autour de cette salle régnait un large divan sur lequel on pouvait s'étendre et se reposer après le bain, outre qu'une des portes ouvrait sur un charmant petit boudoir dont le divan formait un lit de repos. Ce boudoir donnait sur un parterre de fleurs odoriférantes et quelques tiges venaient toucher la fenêtre. C'est là que le général nous donna un déjeuner en fruits, en fromage à la crème et en excellent café moka qui régala beaucoup ma fille. Il nous invita une autre fois à un très bon dîner et le fit servir sous une belle tente turque qu'il avait rapportée de ses voyages. On avait dressé cette tente sur la pelouse fleurie qui faisait face à la maison. Nous étions une douzaine de personnes, toutes assises sur de magnifiques divans qui entouraient la table. On nous servit une quantité de fruits parfaits au dessert. Enfin, ce dîner fut tout à fait asiatique et la manière dont le général recevait donnait encore du prix à toutes ces choses. J'aurais seulement désiré, chez lui, qu'on ne tirât point tout près de nous des coups de canon au moment où nous nous mettions à table, mais on me dit que c'était l'usage chez tous les généraux d'armée. Je ne louai qu'un été ma petite maison sur la Neva. L'été suivant, le jeune comte de Strogonoff me prêta une maison charmante à Kaminostrov, où je me plaisais beaucoup. Tous les matins, j'allais seul me promener dans une forêt voisine, et je passais mes soirées chez la comtesse Golovine, qui était établie tout à côté de moi. Je trouvai là le jeune prince Bariatinsky, la princesse Tarente et plusieurs autres personnes aimables. Nous causions ou nous faisions des lectures jusqu'au moment du souper. Enfin, mon temps se passait le plus agréablement du monde. La paix et le bonheur dont je jouissais ne m'empêchaient pas néanmoins de penser bien souvent à la France et à ses malheurs. J'étais surtout poursuivi par le souvenir de Louis XVI et de Marie-Antoinette, au point qu'un de mes désirs les plus vifs était de faire un tableau qui les représenta dans un des moments touchants et solennels qui avaient dû précéder leur mort. J'ai déjà dit que j'avais évité soigneusement la connaissance de ces tristes détails, mais alors il me fallait bien les connaître si je voulais intéresser. Je savais que Cléry s'était réfugié à Vienne après la mort de son auguste maître. Je lui écrivis et je l'instruisis de mon désir en le priant de m'aider à l'exécuter. Fort peu de temps après, je reçus de lui la lettre suivante que j'ai toujours gardée et que je copie mot pour mot. Madame, la connaissance parfaite que vous avez des personnages de l'auguste famille de Louis XVI m'avait fait dire à Madame la Comtesse de Rombec que personne autre que vous ne pourrait rendre les scènes déchirantes qu'a eu à éprouver cette malheureuse famille dans le cours de sa captivité. Des faits aussi intéressants doivent passer à la postérité et le pinceau de Madame Lebrun peut seul les y transmettre avec vérité. Parmi ces scènes de douleur, on pourrait en peindre 6. Premièrement, Louis XVI dans sa prison, entouré de sa famille, donnant des leçons de géographie et de lecture à ses enfants. La reine et Madame Élisabeth occupées en ce moment à coudre et à raccommoder leurs habits. Deuxièmement, la séparation du roi et de son fils le 11 décembre, jour que le roi parut à la Convention pour la première fois et qu'il a été séparé de sa famille jusqu'à la veille de sa mort. Troisièmement, Louis XVI, interrogé dans la tour par 4 membres de la Convention et entouré de son conseil, messieurs de Malesherbes, de Sèze et Tronchet. Quatrièmement, le conseil exécutif annonçant au roi son décret de mort et la lecture de ce décret par Gronvel. Cinquièmement, les adieux du roi à sa famille la veille de sa mort. Sixièmement, son départ de la tour pour marcher au lieu du supplice. Celui de ces fêtes qui paraît généralement toucher le plus les âmes sensibles est le moment des adieux. Une gravure a été faite en Angleterre sur ce sujet, mais elle est bien loin de la vérité, tant dans la ressemblance des personnages que des localités. « Je vais tâcher, madame, de vous donner les détails que vous désirez pour faire une esquisse de ce tableau. La chambre où s'est passée cette scène peut avoir 15 pieds carrés. Les murs sont recouverts en papier en forme de pierre de taille, ce qui représente bien l'intérieur d'une prison. À droite, près de la porte d'entrée, est une grande croisée, et comme les murs de la tour ont 9 pieds d'épaisseur, la croisée se trouve dans un enfoncement d'environ 8 pieds de large, mais en diminuant vers l'extrémité où l'on aperçoit de très gros barreaux. Dans l'embrasure de cette croisée est un poêle de faïence de 2,5 pieds de large sur 3,5 pieds de haut. Le tuyau passe sous la croisée et il est adossé à la partie gauche de l'embrasure et au commencement. De la croisée au mur de face, il peut y avoir 8 pieds. À ce mur, et près du poêle, est une lampe quinquée et qui éclairait toute la salle, la scène s'étant passée de nuit, c'est-à-dire à 10 heures du soir. Le mur de face peut avoir 15 pieds. Une porte à 2 vantaux le sépare, mais elle se trouve plus du côté droit que du gauche. Cette porte est peinte en gris. Un des vantaux doit être ouvert pour laisser apercevoir une partie de la chambre à coucher. On doit voir la moitié de la cheminée qui se trouve en face de la porte. Une glace est dessus, une partie d'une tenture de papier jaune, une chaise près de la cheminée, une table devant. Une écritoire, des plumes, du papier et des livres sont sur la table. La partie gauche de la salle est une cloison en vitrage. Aux deux extrémités sont 2 portes vitrées. Derrière cette cloison est une petite pièce qui servait de salle à manger. C'est dans cette salle que le roi, assis et entouré de sa famille, leur a fait part de ses dernières volontés. C'est en sortant de cette petite salle à manger, le roi s'avançant vers la porte d'entrée, comme pour reconduire sa famille, que cette scène doit être prise, et ce fut aussi le moment le plus douloureux. Le roi était debout, tenant par la main droite la reine, qui à peine pouvait se soutenir. Elle était appuyée sur l'épaule droite du roi. Le dauphin, du même côté, se trouve enlacé dans le bras droit de la reine, qui le presse vers elle. Il tient avec ses petites mains celle droite du roi et la gauche de la reine, les baise et les arrose de ses larmes. Madame Élisabeth est au côté gauche du roi, pressant de ses 2 mains le haut du bras du roi et levant les yeux remplis de larmes vers le ciel. Madame Royale est devant elle, tenant la main gauche du roi, en faisant retentir la salle des gémissements les plus douloureux. Le roi, toujours calme, toujours auguste, ne versait aucune larme. Mais il paraissait cruellement affecté de l'état douloureux de sa famille. Il lui dit, avec le son de voix le plus doux, mais plein d'expressions touchantes, « Je ne vous dis point adieu, soyez assurés que je vous verrai encore demain matin à 7 heures. »« Vous nous le promettez ?» dit la reine, pouvant à peine articuler. « Oui, je vous le promets, » dit le roi. « Adieu !» Dans ce moment, les sanglots redoublèrent, Madame Royale tomba presque évanouie auprès du roi qu'elle tenait embrassé. Madame Élisabeth s'occupa vivement de la soutenir. Le roi fit un effort bien pénible sur lui-même, il s'arracha de leurs bras et rentra dans sa chambre. Comme j'étais près de Madame Élisabeth, j'aidais cette princesse à soutenir Madame Royale pendant quelques degrés. Mais on ne me permit pas de suivre plus loin et je rentrai près du roi. Pendant cette scène, 4 officiers municipaux, dont 2 très mal vêtus et le chapeau sur la tête, se tenaient dans l'embrasure de la croisée, se chauffant au poêle sans se mouvoir. Ils étaient décorés d'un ruban tricolore avec une cocarde au milieu. Le roi était vêtu d'un habit brun mélangé, avec un collet de même, une veste blanche de piqué de Marseille, une culotte de casimir gris et des bas de soie gris, des boucles d'or mais très simples à ses souliers, un col de mousseline, les cheveux un peu poudrés, une boucle séparée en 2 ou 3, le toupet en vergette un peu longue, les cheveux de derrière noués en catogan. La reine, Madame Royale et Madame Élisabeth étaient vêtues d'une robe blanche de mousseline, des fichus très simples en linon, des bonnets absolument pareils, faits en forme de baigneuse, garnis d'une petite dentelle, un mouchoir garni aussi de dentelle, noué dessus le bonnet en forme de marmotte. Le jeune prince avait un habit de casimir d'un gris verdâtre, une culotte ou pantalon pareil, un petit gilet de basin blanc rayé, l'habit décolleté et à revers, le col de la chemise uni et retombant dessus le collet de l'habit, le jabot de batiste plissé, les souliers noirs noués avec un ruban, les cheveux blonds sans poudre tombant négligemment et bouclés sur le front et sur les épaules, relevés en natte derrière, et ceux de devant tombés naturellement et sans poudre. Les cheveux de la reine étaient presque tous blancs, ceux de madame du beau blond clair et ceux de madame Élisabeth aussi blonds, mais de nuances plus foncées. Voilà à peu près, madame, les détails que je puis vous donner sur ce sujet. S'il ne remplissait point vos désirs, daignez me faire d'autres questions et je tâcherai d'y répondre. Il me reste une grâce à vous demander, c'est que tous ces détails restent entre nous. Comme j'ai des notes où tous ces faits sont écrits, je ne voudrais point qu'ils soient connus avant leur impression. Tout le monde sait que les mémoires de Cléry ont paru. J'espère que quelque jour vous reviendrez habiter cette ville, et si vous désirez faire d'autres tableaux sur ces tristes événements, je suis fort aise de pouvoir vous être agréable en quelque chose. En attendant, je vous prie d'agréer, madame, les respectueux hommages de votre très humble et très obéissant serviteur, Cléry. Vienne, le 27 octobre 1796. Cette lettre me fit une si cruelle impression que je reconnus l'impossibilité d'entreprendre un ouvrage pour lequel chaque coup de pinceau m'aurait fait fondre en pleurs. Je renonçai donc à mon projet. Toutefois, j'eus le bonheur, pendant mon séjour en Russie, de retracer encore des traits augustes et chéris. Voici à quelle occasion. Le comte de Cossé arriva à Pétersbourg, venant de Mitao, où il avait laissé la famille royale. Il me fit une visite pour m'engager à me rendre auprès des princes, qui me verraient, me dit-il, avec plaisir. J'éprouvai dans le moment un bien vif chagrin, car ma fille étant malade, je ne pouvais la quitter, et de plus, j'avais à remplir des engagements pris, non seulement avec des personnages marquants, mais avec la famille impériale pour plusieurs portraits, ce qui ne me permettait pas de quitter avant quelque temps Pétersbourg. J'en exprimai toute ma peine à M. de Cossé, et comme il ne repartait pas tout de suite, je fis aussitôt de souvenir le portrait de la reine que je le priai de remettre à Madame la Duchesse d'Angoulême en attendant que je pusse aller moi-même recevoir les ordres de Son Altesse Royale. Cet envoi me procura la jouissance de recevoir de Madame la lettre que je joins ici et que je conserve comme un témoignage qui m'est bien cher de sa satisfaction. Dès que j'eus repris ma liberté, je courus à Mitao, mais j'eus le malheur de n'y plus retrouver la famille royale.